Vous écoutez RTL.
8h49, votre invité ce matin, Bernard Poirette, l'historien Vincent Lemire.
Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Lemire, le Guatemala est le premier pays à emboîter le pas aux États-Unis et à reconnaître cette nuit Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors, c'est un tout petit pays sans grande importance diplomatique, mais est-ce que ça pourrait être, selon vous, le début d'un mouvement plus important de ralliement à Washington ?
Non, absolument pas. Je pense qu'il faut surtout dire que si le Guatemala a fait cette annonce, ça veut dire que 195 autres pays ne l'ont pas faite.
Oui.
C'est un petit peu comme quand en Europe, on a eu la République tchèque, je crois, qui a annoncé son soutien à la déclaration de Trump. Ça voulait dire qu'on avait 26 autres pays européens qui ne faisaient pas cette annonce. Non, je crois qu'il y a vraiment un consensus international qui a été très très net, peut-être même un peu plus net que ce qu'on l'attendait. 14 contre 1 au Conseil de sécurité.
Oui.
C'est une performance incroyable, y compris la Grande-Bretagne. Et puis 128 États à l'Assemblée générale de l'ONU, seulement 9 votes en faveur des États-Unis, dont les îles Marshall, la Micronésie, et vraiment des États qui, quasiment qu'on découvre au moment de découvrir le vote.
Absolument. Vincent Lemire, historiquement, est-ce que la position israélienne qui affirme que de tout temps, Jérusalem a été la capitale de la nation juive, est-ce que historiquement, cette position est exacte ?
Alors, Jérusalem est la capitale fondatrice de la culture juive et de la religion juive. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Oui.
Et je pense qu'aucun historien sérieux ne peut contester la réalité du premier temple, du second temple. Mais ceci dit, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 20e siècle, Jérusalem n'a jamais été une capitale pour aucune entité étatique, que ce soit Israël ou aucun autre État, d'ailleurs aucun autre empire.
Oui.
Donc en fait, le problème, c'est absolument pas la revendication d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Hein. En 1950, Israël a décidé de faire de Jérusalem-Ouest sa capitale. Le problème, c'est 1980, quand Israël a déclaré que c'était non seulement Jérusalem-Ouest, mais aussi Jérusalem-Est,
oui,
qui devenait la capitale de l'État. Et c'est en 1980 qu'il y a eu la résolution 478 qui a demandé aux derniers États qui avaient encore leur ambassade à Jérusalem. Et il y avait par exemple les Pays-Bas. Hein. On peut rappeler aux auditeurs ce matin qu'il y avait 13 États qui avaient leur ambassade à Jérusalem jusqu'en 1980. Et c'est la loi de 1980 qui fait que finalement tous les États déménagent leur ambassade. Donc c'est vraiment pas le problème de Jérusalem-Ouest. C'est le problème de la revendication d'une souveraineté exclusive sur la totalité de la ville dont quasiment la moitié de la population est palestinienne.
Donc la situation actuelle, Jérusalem, une ville pour deux peuples et trois religions, c'est bien la conséquence d'un contexte historique très violent et très tortueux. Est-ce que, selon vous, qui êtes historien, c'est la moins mauvaise des solutions ? On n'en prend pas le chemin, hein, puisque les Américains prennent une autre route. Mais est-ce que c'est la moins mauvaise des solutions à laquelle, par exemple, même le pape s'est rallié récemment en disant « Moi, je suis pour le statu quo sur le statut de Jérusalem ».
Oui, exactement. Je reprendrai exactement votre formule, la moins mauvaise des solutions. Et comme vous le savez, en histoire, souvent, la moins mauvaise des solutions, c'est déjà pas si mal. Hein. Et surtout dans le contexte du Proche-Orient. Oui, effectivement, Jérusalem ne peut pas être la capitale exclusive d'un seul État-nation. Ça, pour le coup, c'est la vérité historique de la ville qui le dit. Cette ville, c'est le berceau commun des trois monothéismes. On dit souvent que c'est la troisième ville sainte de l'islam, mais c'est aussi la première Qibla, hein, c'est la première direction de la prière. Mahomet priait vers Jérusalem, évidemment, et pas vers la Mecque ou Médine. Et puis le Dôme du Rocher, c'est le plus ancien monument islamique conservé au monde. Donc, y compris pour les musulmans, c'est une ville très importante, pour les chrétiens aussi, bien sûr.
Il y a un truc qui m'échappe quand même, c'est que depuis trois semaines que M. Trump a pris cette décision, on s'attendait véritablement à un embrasement d'une violence extrême dans tout le monde arabe. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, mais finalement ça a l'air assez contenu tout cela. Comment expliquez-vous cela ?
Vous avez entièrement raison. Moi, j'interviens effectivement dans les médias depuis à peu près trois semaines. Vous ne m'aurez jamais entendu annoncer cet embrasement pour une raison simple. C'est que les intifadas ne s'enchaînent jamais comme des redites d'une intifada sur une autre. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse palestinienne en particulier a compris que ce qui fonctionne concrètement, hein, ce qu'a des résultats, c'est ce qu'on appelle l'action non violente. Alors ça a l'air un petit peu voilà, béni oui-oui de dire ça, mais la dernière victoire, une victoire inédite palestinienne à Jérusalem, c'était en juillet, la crise des portiques, la jeunesse palestinienne qui a prié devant ces fameux portiques et qui a réussi à faire reculer Netanyahou. C'était une action très très largement non violente, hein, ce qu'on appelle une action pacifique. C'est aujourd'hui l'appel de Mustapha Barghouti. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un soulèvement palestinien en cours, mais effectivement, il ne correspond pas au schéma que peut-être on attend. Ce n'est pas là du tout la deuxième intifada, qui était une intifada militarisée, qui a été une intifada par les armes, qui a été battue par les armes. Et aujourd'hui, la jeunesse palestinienne est en train de trouver des nouveaux moyens d'action, mais qui, encore une fois, sont diablement plus efficaces, hein, puisque à l'heure des réseaux sociaux, c'est vraiment l'action non violente qui montre toute son efficacité.
Vincent Lemire, sachant que M. Trump ne bougera plus, puisqu'il en a fait une question de principe, il a décidé ça et ça ne changera pas, est-ce qu'on peut imaginer quand même que la décision américaine est irréversible pour toujours? En clair, l'éventuel successeur de M. Trump peut-il décider de rétropédaler?
Alors, d'abord, je vais vous donner une information. Cette information, c'est que Donald Trump a signé un nouveau report de 6 mois pour l'installation de l'ambassade. Oui. C'est passé complètement sous les radars, mais on a eu la confirmation par le département d'État. 2 heures après avoir fait son annonce devant l'arbre de Noël avec Mike Pence, etc., il a signé dans son bureau, hors caméra, un nouveau report pour l'installation de l'ambassade à Jérusalem. Oui. Alors, il dit report technique, financier, etc. N'empêche que finalement, il a signé le même report qu'ont signé ses prédécesseurs depuis 22 ans. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que dans 6 mois, en toute rigueur, il pourrait en signer un nouveau. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir combien de temps va prendre l'installation de cette ambassade et surtout où elle va s'installer. Et y compris en Israël et en Palestine, il y a des activistes vraiment qui sont pour la paix et qui sont pour le fait que Jérusalem devienne la capitale de 2 États et qui disent aucun problème que l'ambassade américaine en Israël s'installe à Jérusalem. Seulement, il en faut une autre. Voilà, il en faut une deuxième, une à Jérusalem-Est pour la Palestine, une à Jérusalem-Ouest pour Israël, ouais. Et tout le monde sera content. À la limite, Trump avait une phrase à ajouter à son annonce, et tout le monde applaudissait. Donc, le terrain aujourd'hui sur lequel va peut-être s'installer la future ambassade, c'est au sud de la ville, vers le Talpiot, dans ce qu'on appelle le No Man's Land. Donc, c'est ni en Israël, selon les frontières de 49, ni en Cisjordanie, c'est vraiment au milieu, ce qu'on appelle aussi le territoire de l'ONU. Ouais. Là, il pourrait y avoir un très très grand bâtiment, j'allais dire presque avec 2 entrées, une à l'est et une à l'ouest, qui serait l'ambassade américaine pour 2 États.
Merci infiniment Vincent Lemire pour cet éclairage d'une situation vraiment pas simple à percevoir objectivement. Je rappelle que chez Flammarion, vous avez publié Jérusalem, histoire d'une ville-monde. Et merci pour cet éclairage. Bon Noël à vous, Monsieur Lemire.